Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro de Destination Haute-Provence que nous vous proposons, un magazine de Fréquence Mistral en collaboration avec l'Office de Tourisme Communautaire de Durance, Luberon, Verdon Agglomération, une émission préparée et présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Dans le cadre du magazine que Fréquence Mistral produit avec l'Office de Tourisme Communautaire de Durance, Luberon-Verdon Agglomération, nous allons nous pencher sur un des aspects remarquables de la ville de Manosque, ses appétits culturels et littéraires. On lit beaucoup à Manosque, on y écrit aussi. Bien sûr, il y a Jean Giono, incontournable, mais avant lui, il y eut Élémir Bourges, qui l'a précédé à l'Académie Goncourt, puis Pierre Magnan, roi de l'intrigue provençale. Aujourd'hui, c'est René Frény qui brille de l'éclat manosquin, et nous l'entendrons dans un instant. Claire Zara dirige le service culturel de l'agglomération manosquine et elle est bibliothécaire de formation. Elle est avec nous en plateau pour évoquer sa mission littéraire. Merci et à tout à l'heure. Et puis nous aurons aussi plusieurs interviews, outre celle de René Frény, Laetitia Fourquin de l'association Éclat de Lire qui œuvre pour la littérature jeunesse, Olivier Chaudançon, co-directeur du festival Les Correspondances, un événement incontournable à Manosque. Également un des trois libraires manosquins, PJ Corvisier, est aux manettes de Forum BD, où règne la bande dessinée, mais aussi les mangas et les romans graphiques. Enfin, nous entendrons Clément Balcon pour l'Office de Tourisme, qui confirmera l'engouement des visiteurs pour Manosque, la littéraire. Bienvenue à Manosque, bonne émission. Et on ouvre cette émission avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir Claire Zara. Bonjour Claire.
Bonjour François.
Claire, vous dirigez le service culturel de l'agglomération et vous êtes bibliothécaire de formation. C'est le thème de cette émission. Quelle est la place du livre dans votre service ?
Alors, vous savez que le livre occupe l'une des toutes premières places dans la direction de la culture de Durance-Luberon-Verdon Agglomération. C'est l'un des axes forts de la compétence culture, aux côtés du spectacle vivant et de l'enseignement musical et artistique. Dès sa création, l'agglomération a souhaité que le livre occupe toute la place en créant un réseau de médiathèques sur le territoire qui permet un service d'accès aux livres et à la lecture particulièrement performant, mais aussi avec beaucoup, avec toute l'énergie qui est dévolue au projet autour de la maison de Jean Giono, qui consistera à créer une vraie maison d'écrivains à partir de cette maison qui a accueilli toute la création littéraire de Jean Giono pendant l'essentiel de son existence.
C'est un gros dossier, vous savez. Nous allons en parler très certainement dans les mois prochains avec Sandra Faure et Jean-Christophe Petrini, vous-même aussi également, et puis l'association des amis de Jean Giono. Jean Giono est toujours très présent à Manosque.
Oui, Jean Giono a une présence que je qualifierais de double. Il est présent par son nom et par l'œuvre qui s'inscrit forcément dans la ville de Manosque et qui ramène tout ce qu'on fait à ce grand nom, mais aussi je pense qu'il a su fédérer autour de lui de son vivant une sorte d'énergie créatrice. Enfin, il a fédéré autour de lui tout un tas d'artistes, d'autres écrivains. Il a donné envie, je crois, de créer, d'écrire, de sculpter, de peindre, et ça je crois que c'est quelque chose qui reste particulier quand même à ce territoire, cette émulation créatrice, cette envie de partager, de faire voir ce qu'on fait. Et voilà, il n'y a qu'à voir la quantité de maisons d'édition, d'auteurs, d'écrivains, d'illustrateurs, de typographes qui s'installent sur Manosque et au-delà. Hein. Je crois qu'on peut dire que ce rayonnement, il vaut pour tout le département du 04.
Il y a donc un héritage Giono à Manosque et c'est une excellente chose. Claire Zara, le réseau des médiathèques aussi, c'est important dans l'agglomération ?
Pour nous, c'est essentiel sur un territoire rural où la distance entre les petits villages et la commune centre est considérable. Hein. J'ai appris que dans le 04, on calcule pas forcément une distance en kilomètres, mais plutôt en temps de trajet. Et la bibliothèque, c'est quand même le premier accès à la culture et au savoir. C'est important du coup pour notre territoire de le rendre accessible un petit peu partout, sans avoir à se déplacer trop loin, et avec un niveau de service qui est le même qu'on habite le petit village village de Roumoul ou la grande commune de Manosque, le service rendu à l'usager, c'est le même, voilà, dans tout le territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend à tout prix pour que l'accès à la culture, au savoir, à l'enseignement reste disponible à tous.
C'est-à-dire que si on habite Roumoul, Valensole, Quinçon, on peut commander un livre de la médiathèque, des médiathèques, et le recevoir après dans son propre village. Et ça, c'est une bonne chose, c'est grâce à l'outil numérique.
Alors, c'est grâce à plein de choses. Je crois que c'est d'abord grâce à l'envie humaine de proposer ça. Parce qu'on n'oublions pas que ce réseau, il est possible parce que plus de 15 bibliothèques sont gérées uniquement par des personnes bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre ce service possible, qui derrière nécessite quand même beaucoup de logistique, hein, du numérique, mais aussi beaucoup de logistique. Et il a fallu qu'elles acceptent ce travail-là. C'est pas le premier travail d'un bibliothécaire. Ça n'a rien à voir avec le conseil d'un livre, ça n'a rien à voir avec la lecture, avec la connaissance d'un auteur ou d'autres choses. Et c'est vraiment du service public. Voilà. Et quand on est bénévole, c'est peut-être pas en bibliothèque en tout cas, c'est peut-être pas la première intention que d'être là au service du public. C'est d'abord partager une passion commune pour la lecture.
Mais c'est une réponse à la demande du lecteur et c'est une excellente chose. C'est un très bon service. Alors, il y a plusieurs associations qui travaillent avec vos services, justement, les correspondances, mais aussi les compteurs de bouche à oreille, Éclat de lire et d'autres. Comment ça se passe, les relations entre les médiathèques, le service culturel et puis ces associations privées ?
Alors, notre rôle, il est essentiellement un rôle de coordination des différentes actions, s'assurer que les projets associatifs correspondent bien aux attentes et aux besoins, et surtout qu'ils s'inscrivent dans ce qui définit l'action culturelle de l'agglomération. C'est vraiment, on en a parlé à travers le réseau des médiathèques, ce souci de l'équité territoriale, hein, donner le même accès culturel à tous. Donc ça, c'est une des premières intentions. Et puis avoir une offre à destination du jeune public. On est très, très attentif à ce que les projets s'inscrivent toujours avec cette démarche-là et cette volonté-là, et si possible aussi développent l'attractivité, enfin participent de l'attractivité culturelle de notre territoire. Voilà.
Vous avez parlé du livre jeunesse, et puis vous savez bien sûr que l'association Éclat de lire fait un travail remarquable dans ce domaine. Laetitia Fourquin, qui la dirige, n'a pas pu être des nôtres ce matin, mais par contre, elle a bien voulu répondre à mes questions. On se retrouve tout de suite après. Laetitia Fourquin, quel est l'objet d'Éclat de lire ?
Alors, l'association Éclat de lire, elle existe depuis bientôt 30 ans. L'idée de départ, qui est encore celle d'aujourd'hui, c'est que la littérature jeunesse en France et dans le monde, mais particulièrement en France, est extrêmement riche, de la partager tout simplement avec les enfants et les jeunes, de la naissance à aux jeunes adultes, c'est-à-dire des bébés qu'on va voir même parfois à l'hôpital, à la maternité, des bébés qui viennent de naître jusqu'aux lycéens avec qui on organise un prix littéraire des adolescents du département. L'idée, c'est tout simplement de partager, de développer le goût de la lecture auprès de ces jeunes qui sont les lecteurs d'aujourd'hui et qui seront les lecteurs de demain aussi, de leur ouvrir de nouveaux horizons, de leur faire découvrir des artistes extrêmement talentueux qui éditent des très beaux livres en France et ailleurs. Et peut-être plus largement, c'est l'accès à la culture. Et avec un regard particulier pour ceux qui en sont le plus éloignés. C'est là notre rôle. Donc l'association est née avec des actions fondatrices, notamment celle des bibliothèques de rue, sur le modèle, à ce moment-là, maintenant d'autres le font, mais c'est ATD Carmonde qui avait mis en route ce dispositif, qui est assez simple, qui consiste d'aller dans les quartiers ou dans les endroits où les enfants ne sortent pas beaucoup, ou bien les habitudes et les médiathèques sont des choses un peu éloignées. Et on va avec des tapis, des jolies caisses, des beaux livres bien choisis. Et c'est un moment de plaisir pour les enfants. Ils viennent lire librement seuls ou se faire lire une histoire, emprunter un livre. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, l'objectif de l'association s'est étoffé. On a fait un Je n'étais pas là à ce moment-là, mais on a invité quelques auteurs, illustrateurs, et puis petit à petit, un événement assez important s'est développé, qui est la fête du livre jeunesse au mois de mai, qui s'organise avec notre association jumelle et amie Croque-Livre à Fort-Calquier. C'est-à-dire qu'on concocte une fête du livre ensemble au mois de mai, où là, on invite entre 12 et 15 auteurs jeunesse de renom, généralement, en tout cas dont on respecte et dont on admire le travail, qui vont rencontrer des enfants, animer des ateliers. On va organiser des expositions autour de leurs œuvres. On va leur proposer des spectacles. Et pendant une semaine, Manosque vit à l'heure de la littérature jeunesse.
Et tout le monde en est ravi, évidemment, et en premier lieu, les enfants. Vous l'avez dit, vous vous adressez à la jeunesse, vous avez bientôt 30 ans, pas vous-même, mais en tout cas l'association. Ça veut dire que vous arrivez à la deuxième génération de lecteurs ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que dans les quartiers, des parents accompagnent leurs enfants sur le tapis en disant « Ah, mais moi aussi, j'ai lu sur le tapis avec les dames d'Éclat de lire. » Je dis les dames parce que souvent les bénévoles sont des dames. Ou bien on rencontre des jeunes adultes qui disent « Mais moi, je me souviens, j'ai rencontré un auteur. » Et on voit d'ailleurs l'impact que ça a parfois une seule rencontre dans sa vie d'écolier reste marquée pour les enfants. J'ai rencontré tel auteur, je suis venue à la fête du livre. Et oui, effectivement, là, on est à la deuxième génération.
Vous avez parlé de la fête du livre jeunesse. C'est bien sûr un élément de rayonnement très important pour vous et pour la ville de Manosque. C'est aussi, de votre part, un engagement et un engagement que vous partagez aussi au niveau national avec d'autres structures.
Oui, absolument. On fait partie de la Fédération nationale des fêtes et salons du livre jeunesse. On a assuré la présidence jusqu'à il y a peu de temps et là, on a passé la main. C'était la fin de notre mandat. La Fédération nationale des fêtes et salons du livre jeunesse est une fédération qui regroupe aujourd'hui à peu près une trentaine de salons avec des profils extrêmement différents, qui vont de très grands salons comme celui du Salon de Montreuil, qui est un des plus grands salons européens de littérature jeunesse, et puis des salons comme nous, en zone rurale, le Salon de Villeurbanne, enfin des très gros salons de livre jeunesse, des plus petits, autour d'une charte de qualité qui est celle de respecter d'abord la chaîne du livre, respecter la rémunération des auteurs, et puis autour de aussi de cette charte qui est que c'est un travail à l'année auprès des enfants, c'est pas deux jours de consommation avec on achète des livres, on fait dédicacer des livres, etc. Il y a un vrai travail autour de la lecture toute l'année avec les enfants, que ce soit dans les écoles, dans les crèches, dans les lycées. Et donc nous sommes fédérés déjà depuis de nombreuses années, mais cette fédération prend de l'ampleur, ce qui permet d'échanger les pratiques, de se faire connaître, d'avoir un rôle auprès des instances comme le Centre National du Livre ou le Syndicat des Éditeurs. On a notre place auprès d'instances nationales.
Comment se déroule votre action avec les partenaires éventuels sur Manosque? Je pense à des structures comme les médiathèques ou bien les correspondances.
Alors, nous avons beaucoup de partenaires. Je pense que c'est la force d'Éclat de lire, c'est d'avoir construit ou rejoint des partenariats importants. Alors, avec les médiathèques, c'est un travail quasi quotidien avec elles, puisque on se complète, on marche pas sur leur plate-bande. On a, par exemple, chaque année une résidence d'auteur et illustrateur jeunesse, enfin créateur jeunesse. Cette personne qui est choisie chaque année passe 3 mois à Manosque. Mais on construit le projet avec les médiathèques parce que ce résident va aussi se promener dans tous les villages, dans toutes les médiathèques du territoire de l'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Et puis on construit aussi l'animation Partir en livre, une manifestation nationale aussi qui se passe au mois de juillet, organisée par le Centre National du Livre, qu'on organise maintenant avec la médiathèque, ce qui permet de faire voyager aussi des ateliers un peu partout sur le territoire des médiathèques, puisqu'il y a beaucoup de médiathèques sur le territoire de la DLVA. Et sur les correspondances, c'est un partenariat très très fort aussi. C'est depuis des années, on développe la partie jeunesse et famille en partenariat avec les correspondances, avec une très forte demande, avec le pari déjà que ces jeunes et ces familles seront sont déjà, mais seront encore plus les festivaliers de demain. Donc pour nous, c'est quasiment une double fête de la littérature jeunesse, puisqu'on invite des illustrateurs, des auteurs. C'est le moment du lancement du prix littéraire des ados. On attend plus de 300 collégiens et lycéens qui vont venir rencontrer dans le programme des correspondances des auteurs sur les places de la ville. On a on programme des spectacles aussi en lien avec le livre. On attend plus de 600 enfants qui vont venir jeudi matin dans la grande salle du théâtre Jean Lebleu voir un spectacle autour du livre et du cirque. Il y a une demande extrêmement forte autour des correspondances de la part des familles et du public scolaire.
Laetitia Fourquin pour Éclat de Lire, en pleine préparation, vous l'avez compris, pour les correspondances. Claire Zara, c'est une chance pour votre service d'avoir une association partenaire comme celle de Laetitia Fourquin, Virginie Gontran et toutes ces bénévoles.
Oui, tout à fait. On peut déployer en partenariat avec l'association Éclat de Lire, énormément de projets tout au long de l'année. Il y a cette proposition jeunesse pendant les correspondances qui est extraordinaire, mais toute l'année et au-delà de la fête du livre jeunesse, on travaille main dans la main sur énormément de projets, sur les opérations Partir en livre pendant l'été, sur la résidence d'illustrateurs aussi, puisqu'un illustrateur arrive, déjà à Manosque, hein, on fêtera sa résidence ce soir à l'hôtel Raffin, Romain Bernard. Il va se déplacer sur tout le territoire, rencontrer les enfants de nombreuses écoles de l'agglomération, rencontrer les bibliothécaires, faire voir son travail, animer des ateliers. Donc voilà, les actions, c'est toute l'année avec Éclat de Lire. C'est toujours à destination des plus jeunes et c'est sur l'ensemble du territoire.
Et c'est des souvenirs précieux pour les enfants, justement, ces rencontres avec les illustrateurs, les plasticiens qui viennent dans le cadre de ces actions. Alors, Laetitia en a parlé, les correspondances, c'est un des temps forts aussi de l'année.
Bien sûr, on a une double rentrée, hein, rentrée littéraire et rentrée renforcée par ce festival. C'est toujours le même plaisir, hein, pour les équipes de bibliothécaires d'avoir l'opportunité de déjà d'assister à ces rencontres-là, de rencontrer les auteurs, d'assister à des lectures le soir au théâtre, mais aussi de participer, puisque dans toutes les bibliothèques, on fait une place vraiment particulière à ce festival. J'ai envie de dire que les bibliothèques se mettent aux couleurs du festival des correspondances, et des bibliothécaires animent aussi des rendez-vous sur Manosque, hein, les bibliothécaires de la médiathèque d'Herbès animent le labo d'édition, qui est un projet extraordinaire où on propose à des lecteurs de découvrir des manuscrits inédits et de donner leur point de vue sur la possibilité ou non de publier tel ou tel écrit. Et puis les fameux apéros littéraires où nos lecteurs se prêtent au jeu de la lecture à voix haute, et ces lectures sont suivies de rencontres croisées avec les auteurs animées par les bibliothécaires.
Toujours des moments passionnants et en même temps surprenants, parce que ça n'est pas fréquent, ce genre d'animation, et c'est une bonne chose. Alors je vous propose, Claire, d'écouter l'interview du co-directeur du Festival des Correspondances, Olivier Chaudançon. Olivier Chaudançon, vous êtes le co-directeur des Correspondances, un festival littéraire à Manosque.
Oui, un festival qui aborde sa 24e édition, donc il est bien installé, bien ancré. Et au-delà du fait que je crois qu'il a inventé une forme pour la littérature, festival littéraire, lorsqu'on a établi ce nom-là, ça n'existait pas. C'était des salons, c'était des fêtes du livre, mais il n'y avait pas de festival littéraire. Et ça nous a permis de faire une place à des comédiens, à des musiciens, se donner aussi l'envie de modifier et de décorer la ville. Voilà, donc festival au sens plein, pour démontrer que la littérature est un art vivant. Et cette forme-là, nouvelle, pionnière, qui maintenant a fait florès dans d'autres régions, elle s'est établie aussi avec un souci de faire vivre Manosque. Je pense notamment au choix de fin septembre. Nous avons fait ce choix-là, certes parce que c'est la rentrée littéraire, mais c'est aussi parce que c'est la fin de la saison touristique, et il nous semblait intéressant qu'un événement puisse redonner envie aux gens de venir séjourner à Manosque. Réellement, c'est un élément qui a été déterminant. Et de fait, au fil des ans et du succès du festival, on constate qu'il y a 15 à 20 000 festivaliers, on va dire. Alors, les Manosquins, bien entendu, mais aussi les gens du département, mais aussi les gens qui viennent de toute la région. Et puis, on avait fait des études et on voyait que Si la région représente peut-être à peu près 80-85% des festivaliers, ça veut dire qu'il y en a 15-20% qui viennent d'ailleurs, de plus loin, de partout en France, Toulouse, Brest, Strasbourg, Paris, voilà. Donc ça permet à la fois d'animer la ville et de faire une offre de qualité à ses habitants, de mettre Manosque au centre de la carte du département et de la région, parce que, encore une fois, le public régional vient abondamment, notamment sur la période du week-end, vendredi, samedi, dimanche, et aussi de mettre Manosque sur la carte de France, et de façon forte, puisque on peut dire aujourd'hui que les correspondants de Manosque, c'est un des festivals littéraires les plus réputés au niveau national.
C'est un public qui est fidèle à votre manifestation ?
Oui, c'est un public qui est très fidèle. Je croise chaque année des gens qui me disent « Ah, mais nous, ça fait 15 ans qu'on vient. Ah, mais nous, c'est mieux, ça fait 17 ans. » Et puis, heureusement, ça se renouvelle aussi. Donc, il y a des gens nouveaux qui découvrent le festival et qui promettent d'y revenir. Oui, donc je crois qu'il y a une vraie fidélisation, un vrai compagnonnage, mais aussi un renouvellement constant des publics.
Un rayonnement également avec la qualité de votre programmation.
C'est certain, alors c'est toujours un peu embarrassant de parler de la qualité de la programmation quand on l'a fait soi-même, mais je dois constater que les auteurs rêvent d'être invités à Manosque, que les maisons d'édition nous mettent une amicale pression pour qu'on invite leurs livres de rentrée littéraire. Et c'est vrai que ce qui nous distingue de grands salons, c'est que nous avons vraiment une programmation au sens de choix. Nous n'invitons pas tout le monde. C'est 40-45 auteurs de la rentrée littéraire qui viennent lorsque dans des grands salons, il y en a 300 ou 400. Donc ils savent qu'ils ont été lus, choisis, qu'on a envie de les défendre, qu'on réfléchit à la façon dont on va leur donner la parole. Est-ce que c'est un entretien? Est-ce que c'est un dialogue avec quelqu'un? Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que c'est une performance? Voilà, donc le choix précis que nous faisons et l'attention que l'on donne aux prises de parole font que le festival est particulièrement réputé.
Il y a également les écritoires qui favorisent la correspondance de tout un chacun et puis les liaisons que vous avez avec des associations locales et avec des acteurs locaux.
Oui, bien sûr, au fil des ans, s'est tissé une sorte de toile littéraire. Alors, il y a l'association Éclat de Lire qui travaille sur le territoire du livre jeunesse. On travaille depuis presque toujours avec eux, évidemment les médiathèques, la MJC, mais toutes sortes d'associations et puis des établissements scolaires. Voilà, donc il y a tout un écosystème des correspondances qui s'est mis peu à peu en place, jusqu'à, je pense, avoir des effets induits qu'on n'avait pas prévus à l'origine. Le fait qu'il y ait 3 librairies au centre de Manosque, 2 généralistes et 1 librairie BD, je ne veux pas dire que c'est uniquement grâce aux correspondances, mais je pense que ça y a contribué, parce que dans une ville de la taille de Manosque, théoriquement, il ne devrait pas y avoir plus d'une librairie, et encore, c'est bien d'en avoir une. Donc je me dis que, et je m'en réjouis, qu'il y a un effet d'accompagnement vertueux, d'émulation, et on se renforce un peu tous. Je pense que Éclat de Lire, avec sa fête du livre jeunesse, a grandi aussi avec les correspondances, et inversement, les correspondances seraient moins pertinentes si nous n'avions pas tout ce travail établi par Éclat de Lire. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est un écosystème.
Olivier Chaudançon, qui avec sa collègue Evelyne Previdelot et son équipe apporte ses compétences et ses connaissances à Manosque pour un magnifique festival. J'en profite pour signaler nos émissions spéciales en direct des correspondances depuis une bonne vingtaine d'années, ce qui permet à Fréquence Mistral d'ouvrir son antenne à des auteurs, artistes, éditeurs et de nombreux férus de rencontres littéraires. Pour nous, c'est un bonheur fou. Il aurait dû être en plateau avec nous, l'écrivain René Frény, qui est en train de recevoir en ce moment même le prix Malesherbes pour son dernier livre, Minuit dans la ville des songes, paru chez Gallimard. Mais avant de partir vers Paris, René Frény nous a accordé une interview où nous évoquons son travail de romancier habitant Manosque, ville qui l'inspire mais qui est éloignée des éditeurs et médias nationaux, interlocuteurs essentiels d'un auteur en activité. René Frény, vous êtes un écrivain connu avec une vingtaine de romans parus chez De Noël et Gallimard. Vous êtes né à Marseille, vous vivez à Manosque et la ville comme sa banlieue de Haute-Provence est souvent le décor, voire parfois l'âme de vos livres. Manosque vous inspire ?
Manosque et surtout les collines autour, la Durance, le Verdon, tous les plateaux, Bannon, Manosque bien entendu parce que j'habite en Grand-Peu, j'habite sur la place de l'Hôtel de Ville et ma fille a appris à marcher sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc c'est pas uniquement Manosque qui m'inspire, c'est les premiers pas de ma fille sur la place, c'est les rivières, c'est les collines, c'est la beauté de cet endroit. Donc tout m'inspire et c'est un peu comme pour Jean Giono, le décor de la plupart de mes livres. Mais ce décor qui part justement du plateau de Valensole, qui va jusqu'à Moussier-Sainte-Marie, qui monte vers Bannon, c'est un décor très large où je marche tous les jours. Actuellement, j'habite à Villon-sur-Verdon, de l'autre côté des deux rivières. Et en hiver, je pars. Là, hier, je suis allé chercher des mûres, je ramasse des figues, je ramasse des champignons. C'est-à-dire, on ramasse de tout, mais on ramasse des mots partout. Quand je longe le Verdon, je cherche des mûres, mais je reviens aussi avec des phrases entières qui se sont écrites dans ma tête pendant que je marche. Parce qu'en marchant, tout est mobilisé, les muscles, les nerfs, les rotules, le cœur, on sent les odeurs de l'automne, le buis mouillé, le bois pourri, l'odeur de la rivière, l'envol d'un oiseau, et tu fais des phrases sans t'en rendre compte, parce que tu es très réveillé quand tu marches ou quand tu jardines. Donc le matin, je bois un café, je pars marcher dans les collines, et je commence à écrire en marchant.
On peut dire que vous êtes un activiste des mots ?
Activiste, oui, parce que je fais bruire les mots partout autour de moi. Je pense que de plus en plus, je vis dans un bourdonnement de mots. Je me réveille la nuit et je suis en train d'écrire. Dans ce demi-sommeil qu'on appelle le subconscient, j'écris. Donc, un activiste des mots, parce que je n'ai jamais soulevé autant d'émotions dans ma vie qu'en écrivant. Je pense que sous chaque mot, il y a un monde et un monde d'émotions. Donc, je vais dans les prisons, je vais dans les lycées, et en parlant, c'est-à-dire en employant les mots, je soulève des émotions dont je n'ai pas besoin de programme politique, je n'ai pas besoin de théorie, je ne fais partie d'aucun parti, mais je pense que le principal parti, c'est les mots. J'habite une ville de mots et je me suis rendu compte que depuis que j'apprends des mots, que je parle, que je lis, que j'écris, ce monde qui s'installe autour de moi est un monde, on peut dire, d'activiste, un activisme du mot et de l'émotion.
Vous avez évoqué tout à l'heure Jean Giono, c'est une ombre tutélaire pour vous ?
C'est une lumière tutélaire, parce que jamais Giono ne me fera de l'ombre, parce que celui qui pense que Giono lui fait de l'ombre, il y a une prétention. Giono a été pour moi une grande lumière dès le premier livre, que j'ai lu d'ailleurs dans l'ombre. Et c'est Giono qui a écarté l'ombre d'une cellule de prison. Le deuxième jour, on m'a apporté Colline, et c'est comme si on m'avait apporté une lampe, une lumière, dans cette cellule qui faisait 7 mètres carrés, qui était très sombre, il a apporté la lumière. C'est-à-dire qu'une heure après, moi qui n'étais pas du tout un lecteur, j'ai lu avec difficulté les premières pages de Colline, en butant sur certains mots, sur certaines formes de phrases aussi, que je n'avais pas l'habitude de lire, et petit à petit, j'ai pris un peu le rythme, le boléro de Ravel de Jean Giono, et je suis entré en Provence. C'est comme si le directeur de la prison m'avait apporté les clés de la prison. Giono m'a permis d'amener de la lumière dans cette cellule très obscure, dont il ne me fera jamais d'ombre. Giono m'apporte une grande lumière.
Vous racontez tout cela dans votre dernier ouvrage, « Minuit dans la ville des songes », qui est paru chez Gallimard. René Frény, vous avez fait le choix de vivre en Provence. C'est difficile pour un auteur, justement, de vivre en Provence.
Mais au départ, c'est pas un choix. Je suis né à Marseille, j'ai grandi, j'ai mes plus beaux souvenirs. Ma mère était vivante, elle m'a appris à marcher, elle m'a mené voir le château d'If sur une barque, elle m'a mené voir des films de Charlie Chaplin. Je pleurais, je riais. Les premières grandes émotions, c'est Marseille. Et puis, mon père, qui était dans le bâtiment, a acheté un petit cabanon à Saint-Même, à côté d'ici. Il a restauré et nous y venions tous les étés. Et pour moi, bien entendu, Marseille et la Haute-Provence, mais surtout la Haute-Provence, que j'ai appelé un peu comme Giono le Pays Bleu. Je montais en vélo dès que je pouvais, je montais en Solex dès que j'ai eu un Solex, je garais mon Solex près d'une petite chapelle à côté du pont Mirabeau et je plongeais dans la Durance. Et c'était le premier beau jour de l'année, c'était le 14 juillet quand on prenait les vacances, je montais immédiatement ici et au pont Mirabeau, j'entrais dans le Pays Bleu, je plongeais dans la Durance et je savais que j'allais être heureux pendant un mois et demi, jusqu'au 1er octobre. Le 1er octobre, on rentrait à l'école, Donc 2 mois et demi même. J'étais heureux ici, 2 mois et demi. On mangeait des melons, on allait se baigner dans le Largue, dans la Laye. On embrassait les premières filles de notre vie. Donc si j'ai bien été heureux quelque part, c'est ici. Donc c'est toujours le théâtre de mes énigmes. Marseille un peu plus polar, un peu plus noir. Je vais au Baumettre depuis plus de 20 ans. Donc Marseille, c'est le côté ville bleue, ville noire. Alors qu'ici, c'est pour moi un pays uniquement bleu où j'ai eu les plus beaux moments de mon adolescence.
Vous avez fait le choix d'un métier particulier, écrivain. Tout se décide la plupart du temps à Paris et dans les grandes villes. C'est difficile le contact professionnel avec les éditeurs, les médias.
Je me suis réfugié d'abord dans un cabanon du côté de la mine de Gode, à Banosque, qu'on me prêtait. J'étais infirmier en psychiatrie, je mourais envie d'écrire. Donc je me suis réfugié un beau jour dans ce cabanon, qui était gratuit pour moi, qu'on me prêtait, et j'ai abandonné la psychiatrie, j'ai démissionné. Je n'avais plus de salaire, et ça a été très dur, parce que je travaillais une semaine par-ci, une semaine par-là, pour écrire mes romans. Et j'ai écrit un premier roman, que j'ai envoyé à Paris, persuadé que j'étais le nouveau Rimbaud. Il a été refusé par tout le monde. 20 éditeurs l'ont refusé. Je me suis pas démonté, j'en ai écrit un second. Et puis là, je me suis dit, ils vont me prendre pour Flaubert. Et j'ai envoyé mon manuscrit à Paris, 20 éditeurs l'ont refusé. Mais sans argumenter, n'entre pas dans notre politique éditoriale actuelle. Bon, j'en ai écrit un troisième, un quatrième, tous unanimement refusé. Et mon bonheur d'écrire, cette liberté que j'avais devant ce cabanon, là, en toute saison, j'écrivais en regardant briller la Durance au loin, et je me disais, tu es en train de faire une œuvre, parce que... Mais c'était même pas de la prétention, c'était une forme de naïveté, de candeur. J'écrivais dans un bonheur parfait, et je recevais des lettres, n'entre pas dans notre politique, mais aucune explication. Est-ce que mon style était trop faible? Est-ce que l'histoire était fragile? Rien du tout. Et là, j'ai commencé à comprendre que, au-delà de ces refus, il y avait une espèce de petite secte, ce qu'on appelle le parisianisme, 100 ou 200 personnes à Paris qui tiennent la vie littéraire. Ils sont à la fois journalistes dans les grands médias, les grandes hebdos, les grands quotidiens, les grandes chaînes, la 1, la 2, la 3, Arte, les grandes chaînes et les grandes radios. Et hors de ces médias, point de salut pour un petit manosquin, qui n'était même pas journaliste à la Provence d'ailleurs. Donc j'ai senti qu'il y avait vraiment deux mondes, le leur, 100 ou 200 personnes, et puis la Provence, mais toutes les régions, où on n'est pas dans le 5e et 6e arrondissement. Là j'ai compris comment la France fonctionnait autour d'une seule capitale, alors qu'aujourd'hui je me rends compte que mes romans sont traduits. Ils sont traduits dans des petites villes italiennes, des petites villes allemandes, des petites villes grecques, parce que dans ces pays-là, dans toute l'Europe, il y a des éditeurs partout. Alors que nous, on a une capitale hypertrophiée, très prétentieuse, où tout se passe. Et si tu envoies des manuscrits de Toulouse, de Nice, de Dunkerque, eh bien, tu n'es même pas lu.
René Frigny, vous êtes programmé dans l'événement littéraire de l'automne, Les Correspondances de Manosque, pour présenter votre dernier roman, qui est édité chez Gallimard, je l'ai dit, Minuit dans la ville des songes, une ville qu'il m'a semblé reconnaître d'ailleurs, et nous aurons l'occasion d'en parler pendant le festival. Pour l'heure, qu'est-ce que vous pensez de ce festival, Les Correspondances ?
Je pense qu'ils ont beaucoup progressé. Ils sont arrivés avec ce petit complexe parisien et au début, je les trouvais justement, comme beaucoup de festivals, un peu parisiens. Et puis, je crois qu'ils ont écouté ce que nous avons dit, peut-être ce que vous avez dit, François, ce que j'ai pu dire aussi sur la place de l'Hôtel de Ville, ce que d'autres ont... Ils ont compris qu'ils étaient dans une ville de Provence et qu'il fallait écouter les gens, travailler avec les gens. Et je crois qu'ils se sont beaucoup améliorés. Maintenant, ils ont fait travailler des gens d'éclat de lire, les libraires du coin, les restaurateurs du coin, les écrivains du coin. Je pense qu'ils ont fait un net progrès et c'est un festival parisien qui est en train de s'enraciner en province. Mais justement, il y avait du chemin. Ils ont eu l'intelligence d'écouter les gens de Manosque et de faire ce chemin. Donc c'est un festival d'une grande qualité parce qu'il est à deux niveaux. Des écrivains parlent sur toutes les places de leurs livres, et donc c'est très littéraire, et parallèlement, les gens qui écoutent ces débats vont dans les chambres d'écriture et écrivent. Ils peuvent écrire une lettre, 2 lettres, 10 lettres, donc ils sont à la fois acteurs et je ne dis pas consommateurs de spectacles à Jean Le Bleu ou simplement passifs, ils sont aussi acteurs. Ils écoutent les écrivains, ils prennent des conseils et ils écrivent. Et moi j'ai assisté, je crois que je l'ai déjà raconté dans votre radio, mais à des anecdotes inouïes, une femme que j'ai croisée dans l'église, là, qui redescendait de la chambre d'écriture, et elle était lumineuse. Et je lui ai dit, vous avez l'air heureuse. Et elle m'a dit, vous n'imaginez pas à quel point, en haut de l'église, il y avait une petite table, je me suis assis face au ciel, au milieu des pigeons, et j'ai écrit à ma mère, avec qui je suis fâché depuis 20 ans. Chaque jour, je me dis, je vais écrire à maman, et je n'y arrive pas, parce que cette rupture est trop violente, trop... 20 ans de silence. Et là-haut, au milieu du ciel, j'ai écrit à ma mère, je lui ai dit que je regrettais, je lui ai dit que je l'aimais, et c'est le plus beau jour de ma vie. Eh bien, parce que ces tables d'écriture ne sont pas notre petit bureau, à la maison, bien rangé. Quand on est coincé, on est coincé. Et là, au milieu du ciel, on peut écrire au bon Dieu si on veut, ou au Premier ministre, et surtout à sa maman.
René Frény, qui est présent sur le Festival des Correspondances 2022 avec son roman « Minuit dans la ville des songes », une rencontre place Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, un auteur qu'apprécie l'écrivain manosquin. Je vais vous poser une question. Que serait la chaîne du livre sans les libraires ? Manosque, cité de 23 000 habitants, compte 3 librairies, c'est exceptionnel. Avec le poivre d'âne d'Olivier Roman et le petit pois que gère Dominique Gallard, l'offre s'est renforcée ces dernières années avec l'arrivée de Forum BD, aujourd'hui installé dans le centre-ville et qui propose 17 000 ouvrages, bandes dessinées, mangas et romans graphiques, un univers particulier et un passionné éclairé qui anime ce lieu. Je vous propose d'écouter PJ Corvisier, que j'ai interviewé, au milieu d'albums magnifiques. PJ, vous êtes en charge de la librairie Forum BD à Manosque. Quel est votre public et surtout, qu'est-ce que vous lui proposez comme livre ?
Alors moi, je suis le directeur de la librairie Forum BD et en effet, notre librairie est spécialisée en tout ce qui va être bande dessinée, comics, manga, beaucoup en ce moment, on entend beaucoup parler, roman graphique, tout ce qui va être autour de la pop culture. Et nous, en fait, on accueille toute la semaine, toute l'année, sans fermeture, justement, tout le monde autour justement de cette génération un peu nouvelle, un peu X, autour de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle littérature, à savoir les romans graphiques et le redécouverte de l'art japonais qu'est le manga.
Ça fait plusieurs années que vous êtes installé sur Manosque, mais depuis un an, vous êtes en centre-ville. Heureux ?
Ah, très, très, très. Le déménagement, aussi difficile qu'il a été à conceptualiser, a été en fait un véritable plaisir pour nous, pour la clientèle, qui nous a suivis, qui continue à venir, qui nous a découvert, qui a autant emballé que nous, justement, dans ce projet, dans le découvert, dans les améliorations qu'on peut faire à chaque fois, dans les animations qu'on peut mettre en place. Et là, au bout d'un an, en fait, dans le centre-ville de Manosque, oui, on est clairement heureux et je pense que nos clients le sont également.
Vous avez dit emballé, mais on sent aussi à vous entendre que vous êtes enthousiaste par rapport à votre fond de commerce, c'est-à-dire la bande dessinée et bien sûr les romans graphiques, les mangas.
Ah, moi je suis amoureux, j'aime mon métier. En fait, la librairie de manière générale, la culture, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et la pop culture, cette culture un peu alternative de l'époque, moi elle me passionne, elle m'a toujours passionné et c'est ce que je veux transmettre à travers des projets comme ce déménagement et ce qu'on fait ici. Donc oui, je suis très content que le public soit également en fait avec nous avec autant d'enthousiasme que je peux y mettre.
Alors c'est un public qui vous est fidèle et vous savez d'à peu près de quel endroit il vient, géographiquement parlant?
Géographiquement parlant, il y a du Manosque, il y a le tout le 04, les Alpes-de-Haute-Provence, on tape aussi dans les Bouches-du-Rhône, après toute la DLVA d'un point de vue général, mais j'ai aussi de la clientèle aixoise, j'ai un peu de la clientèle marseillaise, j'ai un peu de la clientèle un peu de partout, et puis souvent quand les personnes partent parce que pour le travail ou pour les études, souvent ils reviennent et passent au magasin, donc au final il y a une espèce de, on retourne voir un vieil ami qui est resté à Manosque, et ça fait très très plaisir.
Alors c'est une belle boutique qui est à Manosque, évidemment, sur plusieurs étages en plus, mais vous utilisez aussi, je suppose, les outils numériques.
Alors on utilise les outils numériques, alors on utilise l'outil numérique dans le sens de gestion du magasin, pas dans le sens livre numérique, si c'est la question. La bande dessinée numérique existe, mais je m'y refuse complètement, parce que le principe de la bande dessinée, c'est de l'avoir à la feuilletée, de la contempler, un peu comme un tableau, c'est sympa de le voir en photo, mais c'est quand même vachement plus agréable de le voir en vrai, c'est un peu là-dessus. Et dans l'outil numérique, si ce n'est pour le travail en tant que tel ou la communication, non, on n'y est pas tellement assujetti.
Amoureux des livres, donc, et obligatoirement.
Ouais, puis même amoureux de la façon dont on peut en parler et le raconter avec les gens. Parce que voir un commentaire sur les sites comme Amazon ou Fnac.com, en fait, ça fait pas du tout en fait écho à ce qu'on peut partager justement. Ne pas aimer une œuvre ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément, elle nous a pas touché. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait pourquoi elle a touché d'autres personnes et partager. Mettre 3 étoiles, 5 étoiles, 1 étoile, ça veut absolument rien dire. C'est pas représentatif de ce qu'on peut échanger autour d'une œuvre. La preuve, le Festival des Correspondances est là pour rencontrer les auteurs et échanger autour de ce qu'on a ressenti en lisant une œuvre. Et ben, c'est la même chose. Lorsque les gens viennent en librairie, ils viennent pour découvrir et ils viennent pour échanger. Et c'est cet échange-là qu'on ne peut pas retrouver à travers le numérique de manière générale ou même la vente en ligne, auquel je me refuse.
On voit bien que le livre, sous toutes ses formes, du roman à la bande dessinée et du livre d'artiste au manga, l'offre est grande à Manosque, qui mérite bien ce surnom de littéraire. C'est également un point fort et attractif du territoire, un sujet que développe dans cette dernière interview Clément Balcon pour l'Office de tourisme communautaire de l'agglomération manousquine. Clément Balcon pour l'Office de tourisme communautaire de la DLVA. Manosque littéraire et culturel, c'est un vecteur touristique.
Oui, absolument. Je crois que la littérature ou le tourisme littéraire aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour notre destination. Et un petit peu la stratégie aujourd'hui, ce serait de faire de cette littérature-là un motif de visite touristique, c'est-à-dire un objet touristique à proprement parler qui permet de décrire même une destination.
Grâce à un certain Jean Giono, Manosque est connu à travers le monde des lettres.
Et ce qui est très intéressant à travers l'univers de Jean Giono, c'est que finalement, on peut découvrir la destination Haute-Provence en feuilletant les pages et en profitant des descriptions qu'il nous fait de la Durance, de l'oasis romantique du Verdon, de sa propre ville qu'il l'a vu naître. Donc c'est un motif touristique, très clairement, la littérature, à travers Giono, mais pas que.
Finalement. Alors justement, pas que. Donc il y a autre chose que Giono à Manosque.
Tout à fait, et c'est un peu l'idée de l'offre touristique que l'on propose durant toute l'année sur la ville-centre de Manosque, à la fois sur des visites guidées du centre historique qui vont donner un aperçu global de l'histoire de Manosque et dont la littérature est une composante. Alors littérature, les écrivains, notamment René Frénic que vous accueillez, et Jean Giono et bien d'autres. Lazarine de Manosque également, qui est une poétesse très peu connue du 19e siècle, mais qui gagne à l'être, qui a laissé derrière elle une œuvre en provençal et des amitiés avec Frédéric Mistral qui sont quand même assez importantes. L'Office de tourisme propose donc des visites guidées qui sont proposées par Juliette Veller, une guide conférencière. Vous déambulez dans les ruelles de Manosque et différents arrêts sont ponctués de lectures, de correspondances ou de récits. Une troisième offre que je pourrais citer, ça s'appelle les trésors cachés de Manosque. C'est une visite guidée qui permet à des privilégiés, hein, ce sont des petits groupes de 15 personnes maximum, d'entrer dans des lieux qui sont habituellement fermés pour montrer que Manosque regorge de trésors. Mais des trésors manosquins, c'est-à-dire on n'est pas à Versailles, on n'est pas non plus à Aix-en-Provence, Manosque a sa propre histoire et ses propres trésors. Par exemple, ce petit groupe peut aller dans la sacristie de Notre-Dame de Romigé pour voir les ex-voto classés monuments historiques. Mais ce qui est important dans cette visite, c'est qu'on a voulu appuyer et montrer le lien étroit qu'il y a entre Manosque et les livres. Donc le groupe va à la médiathèque d'Herbès et est accueilli par l'équipe qui est formidable, que je salue, pour présenter le fonds Richaudot et tous les ouvrages anciens qui s'y trouvent. La visite se termine par les archives, qui est un incontournable pour apprécier tous les ouvrages anciens et qui regorgent d'anecdotes. Donc le livre, au sens, je le répète encore, mais au sens du contenu et du contenant, ça c'est important.
Il y a un public fidèle sur ce type d'animation ?
Fidèle, je ne saurais pas vous dire, mais ce qui est très réjouissant dans cette proposition, c'est qu'il y a des locaux qui viennent assister aux visites. C'est qu'on n'est pas sur une offre uniquement dédiée aux touristes de passage, mais finalement les locaux ont envie de se réapproprier leur ville aussi et de connaître un peu plus sur leur propre histoire. Et ça, c'est un biais qui est vraiment intéressant.
Autrement dit, chacun peut devenir ambassadeur de sa ville et c'est une excellente chose. Clément Balcon, il y a aussi une nouveauté dont on ne peut pas ne pas parler.
Alors, nous faisons partie des rares offices de tourisme à proposer aujourd'hui une chaîne de podcast qui s'appelle Destination Haute-Provence. Le podcast, hein, pour rappeler très simplement, mais c'est un contenu audio que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, tablette, ordinateur. L'idée, c'est de permettre à des personnes de voyager Donc c'est le travail de Corinne Delaunay, qui a sa société qui s'appelle Écoute Voyageuse, qui a concocté des podcasts très intéressants, réjouissants, dont le premier épisode s'intitule « Manosque la littéraire ». Donc là, ça prend tout son sens et ça montre un peu l'importance de la littérature et du lien étroit entre littérature et Manosque, avec des interventions des archivistes, de la directrice de la culture, des correspondances, tout ça agrémenté d'un décor vraiment séduisant, de pages qui se tournent, de pas sur les pavés, de bruit de fontaines, quelque chose de très très poétique.
Clément Balcon, qui sait être poétique aussi, tout en étant un salarié de l'Office de tourisme communautaire de la DLVA. Et nous arrivons justement à la fin de ce magazine, le moment de demander un mot en forme de conclusion à notre invité, Claire Zara.
Eh bien François, en termes de conclusion, moi j'ai envie de vous remercier pour cette émission. Parce
c'est
que
gentil,
si, si après ces différentes interviews, nos auditeurs n'ont pas qu'une envie, c'est se ruer en médiathèque, en librairie, au Festival des Correspondances, pour lire, découvrir, rencontrer, échanger, ben écoutez, je crois que c'est pas meilleure invitation que cette émission, donc un grand merci à vous.
Un remerciement que je vous retourne aussi à vous et toute votre équipe, toutes vos équipes sur le territoire de la DLVA. Que serait la vie sans la culture? Je n'ose même pas y penser. Merci beaucoup Claire donc d'avoir été notre invitée. Merci également à Olivier pour la régie. Rendez-vous sur notre site fréquencemistral.com pour réécouter ce magazine. Et bien sûr tout au long de cette semaine avec nos émissions à 10h en direct des correspondances de Manosque, la littéraire. Thank you.